Bonsoir, c'est Lise Gutmann. Vous écoutez Radio J, il est 22h.
Radio J.
Les invités de Lise Gutmann.
Voilà, et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'écrivain Marco Koskas pour son nouveau livre David et Rosalie ou le film dans le film, paru chez Galligras Sud. Marco Koskas, bonjour, et si j'ose dire Boker Tov, puisque vous êtes en direct d'Israël avec nous.
Boker Tov.
Merci. Les Koulam, Betar. Merci d'être avec nous. Alors, Marco Koskas, vous êtes né en Tunisie. Vous avez longtemps vécu à Paris avant d'émigrer en Israël. Vous êtes un expansionnaire de la Villa Médicis et vous êtes l'auteur d'une vingtaine de romans, biographies et pièces de théâtre pour lesquelles je vous ai souvent reçu. Alors, quand on voit la couverture de votre livre, quand je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, c'est le scénario de César et Rosalie ou quoi ? Un film quand même culte que j'ai adoré, avec un trio infernal, Yves Montand, Romy Schneider, Samy Frey, dans l'ordre et dans le désordre. Un film qui a beaucoup marqué les générations des années 70-80. On y allait en famille et c'est un film qui a vraiment, on peut le dire, marqué son temps. Maintenant, vous êtes revenu sur ce film et vous faites une analyse très approfondie autour des relations des personnages de ce film. Alors, vous allez nous expliquer comment vous est venue l'idée, comment et pourquoi avez-vous revu ce film. Est-ce qu'à l'époque, déjà, c'était un film culte pour vous? Dites-nous tout, Marco Koskas.
Moi, je me réveillais de la sieste quand l'idée m'est venue.
Oui.
Parce que j'ai mis la télé et j'ai vu qu'il repassait César et Rosalie pour la 150e fois au moins. Parce que c'est à la fois un film culte, un film classique, un grand classique du cinéma français et un film populaire. Mais je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit, mais Samy Frey, sa mère a péri gazé à Auschwitz, alors que la mère de Romy Schneider était une favorite de Hitler. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais comment on a pu réunir ces deux acteurs et qu'est-ce qui a bien pu se passer entre eux? Parce que, avec des enfances aussi irréconciliables, jouer une histoire d'amour, même si le travail de l'acteur, c'est de ne pas être lui-même, ça me paraissait quand même une gageure, quoi. Et en tout cas, j'étais curieux de savoir ce qui avait bien pu se passer entre ces deux acteurs et avec ces deux enfances tellement à l'opposé l'une de l'autre et tellement irréconciliables, surtout, quoi.
Évidemment. Sauf que dans ce domaine,
entre soit me documenter en essayant de faire témoigner les derniers survivants du film, Isabelle Huppert par exemple, ou Bernard Lecoq, ou des gens comme ça. Et puis je me suis dit, bon, peut-être qu'ils n'y ont même pas pensé, peut-être qu'ils s'en foutaient, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu.
Peut-être qu'à l'époque, on en parlait moins qu'aujourd'hui, et qu'à l'époque, Romy Schneider comme Samy Frey cachaient beaucoup leur enfance. Quelles qu'en soient les raisons.
Romy Schneider a souvent accusé sa mère.
Ah oui, non, ça oui, bien sûr.
D'avoir été une nazie.
Oui.
Et en même temps, elle était très attachée à sa mère, qui était elle-même une actrice et qui a fait sa carrière. Donc elle était dans un déchirement par rapport au passé de sa mère, qui ne devait pas être facile à suivre.
Sûrement. Mais en même temps.
Je ne me souviens pas qu'il en ait parlé. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que il avait joué le Je me souviens de Pérec. Or, Pérec et lui se sont connus Ou alors j'ai inventé, je ne sais plus. En tout cas, ils ont eu la même, ils sont de la même origine. Ils sont nés à Belleville tous les deux dans les années 30 et ils ont perdu leur mère tous les deux dans des camps de concentration quand ils étaient des enfants. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à élaborer une hypothèse romanesque plutôt que un roman sur ce qui avait bien pu se passer entre Romy Schneider et Samy.
Alors, Marco Koskas, il y a un nom que nous n'avons pas encore prononcé, c'est celui de Claude Sautet, qui est le réalisateur du film. Et pendant tout le livre, vous vous posez la question de savoir si Claude Sautet était conscient ou non de ce qui se passait entre eux, de leurs origines, et finalement, pourquoi et comment les avoir réunis.
Ben, c'était trop tentant d'imaginer que le film échappait à Claude Sautet, justement.
Oui.
C'était du point de vue romanesque, c'était très intéressant parce qu'il se passait des choses entre les deux acteurs, une relation dont ils ne savaient rien, en fait. Mais il y avait deux autres choses frappantes, je crois. C'était d'une part que le scénario avait été écrit dans les années 60.
Oui.
Et qu'il était resté dans un tiroir pendant très longtemps. Or, dans le film, entre le film et la réalité, il se passe des choses incroyables, des coïncidences incroyables. Par exemple, au début du film, ils vont assister au mariage de la maman de Rosalie.
Oui.
Et dans la vraie vie, la mère de Romy Schneider se remariait à la même époque. Il y a des choses comme ça qui se sont produites. Et l'autre chose aussi, c'est que tous les étés, j'avais Claude Sautet comme voisin dans une maison à Cogolin. Et je ne le voyais jamais. Il ne sortait jamais de chez lui. Il vivait comme un enfant caché. Et donc, je me disais, ce rôle, je l'ai eu pendant des années comme voisin. J'aurais pu lui demander, mais à l'époque, je ne m'intéressais pas au couple Romy Schneider. Et donc, j'ai imaginé que ce qui se passait entre eux lui échappait et faisait un film dans le film, quoi, c'est ça?
Bien sûr. Alors, justement, donc, c'est quand la réalité dépasse la fiction. Claude Sautet est votre voisin. Et puis, ces relations, quand même, entre Frey et Schneider, c'est au cœur du roman. Mais pas que, parce que vous parlez aussi de l'attitude de Montand qui est assez éloignée de tout cela.
Oui, enfin, j'ai transformé un peu le personnage d'Yves Montand en témoin qui se veut à la fois discret et en même temps intéressé par ce qui peut se passer entre les deux acteurs. Mais c'est vrai que dans mon livre, Montand devient un personnage secondaire, alors que c'est Samy Frey le personnage secondaire, en fait, puisque dans le titre même du livre, du film, ça s'appelle César et Rosalie.
Et César, c'est Montand.
César, c'est Montand.
Oui.
Et je ne sais pas pourquoi Sautet a donné ce nom de duo à un trio. Alors, ça rappelle un peu Jules et Jim.
Oui, complètement.
Où il n'y a que deux personnages dans le titre, mais il y en a trois dans l'histoire. Mais en même temps, cacher Samy Frey dans le titre, cacher David, ça correspondait aussi à l'enfance d'enfant caché de Samy Frey, puisque quand sa mère a été emmenée par la Gestapo, il y a une scène extraordinaire. Alors, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est dans les documents que j'ai regardés. Sa mère l'a jetée dans un panier à linge quand elle a entendu la Gestapo frapper à la porte. Et donc, une fois qu'il est sorti du panier à linge sale, il n'avait plus de maman, quoi. Et il était orphelin, son père étant mort quelques années avant de maladie. Il avait 5 ans et il s'est retrouvé seul au monde.
Bien sûr, bien sûr. Comme beaucoup.
Voilà,
je voudrais qu'on revienne à Romy Schneider, parce que vous le dites dans le livre, en fait, elle a quand même fait très fort, puisque ses deux enfants ont eu des noms juifs, des prénoms juifs, David et Sarah. Est-ce que c'était une façon de rattraper quelque chose?
Oui, je crois même que leur père est juif. Hein, je ne suis pas sûr, mais bon. Non, c'était sûrement une source de tourment énorme pour Romy Schneider que d'avoir eu, comme pour tous les Allemands, hein, d'après-guerre,
oui.
Que d'avoir eu, d'avoir été Allemand, d'avoir donc été les héritiers du nazisme. Et surtout, Romy Schneider, dans son cas, c'est que sa mère avait une relation personnelle, quasi-sexuelle, avec Hitler. Donc, pour elle, c'était quelque chose de sûrement très, très lourd. Et j'ai imaginé, donc, dans le livre, qu'elle essayait de se défausser de cette culpabilité dans sa relation avec Samy Frey. Et je pense que c'est ce qui ne se voit pas à l'image, mais c'est ce que j'ai imaginé, quoi.
Oui. Et alors, ce livre, bon, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai passé un excellent moment. Je trouve le livre à la fois truculent, plein d'humour, mais très profond également. Ça nous ramène à certaines réalités qu'on a un peu trop tendance à occulter aujourd'hui. Samy Frey est encore vivant. Vous avez eu des réactions de sa part ou pas? Ou pas encore?
Non, pas encore. Pas encore, parce que le livre est sorti. Je dis tout le temps le film à la place du livre.
Oui. C'est un deuxième film, hein, quelque part, ce que vous écrivez.
Oui, c'est un autre scénario.
C'est un deuxième scénario, oui. On est d'accord.
Oui, on pourrait même imaginer que ça en devienne un vrai, d'ailleurs.
Oui.
Les réactions de Samy Frey. Non, je n'ai pas de réaction de Samy Frey. Il y a juste eu un article de Jérôme Garcin dans l'Observateur. Qui raconte qu'il voit Samy Frey au café tous les jours ou presque au moment où il va monter sur son vélo et faire ses 30 km quotidiens.
Oui.
Entre Tranquille et Pont-l'Évêque. Et donc je sais pas pourquoi Garcin pense qu'il va pas lire mon livre, que Samy Frey va pas lire mon livre. C'est possible.
C'est très
délicat pour moi. J'ai pas envie de cette confrontation, en fait. Parce que c'est mon idée à moi, ce livre. Mmh. C'est ma vision de Samy Frey et Romy Schneider. Et j'ai pas envie de les confronter à la réalité.
C'est presque une uchronie, on va dire. C'est presque une uchronie.
Oui, c'est une forme d'uchronie. Oui. C'est-à-dire. Sauf que c'est pas dans la chronologie que j'invente quelque chose, mais c'est à l'intérieur d'une œuvre cinématographique.
Alors, un livre à découvrir absolument. Marco Koskas, David et Rosalie, ou le film, dans le film, paru chez Galli Gras Sud. Voilà. Marco Koskas, merci pour cet excellent moment que j'ai passé à la lecture de votre livre. Et évidemment, on attend le prochain. Vous êtes en projet?
On a plein des projets.
Eh bien, vous nous tenez au courant.
Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour faire tous les projets que j'ai.
Bah bien sûr que vous en aurez. Et juste un dernier mot avant qu'on se quitte. Ce livre, il faut le lire pour tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Je ne parlerai pas de la conclusion, mais rien que pour les deux dernières pages, lisez le livre. Voilà, oui, je vous remercie. Mais on n'en parle pas, on le lit.
Non,
voilà.
C'est juste pour dire que j'étais en train de finir le livre quand il y a eu le 7 octobre.
Voilà, c'est tout. C'est tout. Et on lit le livre pour les dernières pages. Marco Koskas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bravo pour cet excellent ouvrage. Au revoir, merci.
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi je suis beau dans mon genre.
Moi aussi je suis beau dans mon genre.
C'est plus la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi.
Je t'excuse. J'aime cet endroit.
Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue, si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent.
Très chic. Préfais ce geste.
De toute façon, je ne saurai jamais la vérité, alors.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
משמעותי וגדול לא פחות מחלקן של כל המדינות השכנות.
ועוד אני מאמין
שאנחנו הולכים סחור, שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור,
ושכל הדיבורים
על מאבק בטרור תחליטם רק להרשים את העולם הנאור.
אני מאמין
שוב על השקיעה בחינוך, שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך, שמשכורת הבכירים היא
שערוריה
שצריך לפרק
ולהזיז את הקריה. אני מאמין
שאין פה שוויון,
שההזדמנות שבתוכנו
תוריד את העשור,
שאינו נתעשן
לא נתחיל להבין ספק אם נוכל
לחגוג עוד 60,
וזה לא יזיז לאף אחד את התחת, עד שהם יתחילו להראות פרפחים.
אני מאמין
שחייבים בעתיקות לתנות בעקביות ובעילות תרבות,
ואם יש בעיה את התקציב לבזה,
תנו לי את הכסף אני ענבה.
אז אמרו שרחים מלא תובנות, הוא אוסף את עצמו מתחיל לעשות,
מקים עמותות משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים מתדרך את הפעילות,
מתרגם
ומסביר צריך ומה כדאי
לעשות אחרת,
כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה,
וכמה קל יהיה לשנות את התמונה.
Lise Gutmann.
Radio J.
Youssef Murciano, bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Alors, la semaine dernière, vous étiez avec tout le staff de l'UEJF France sur vos skis à la montagne. Et là, vous êtes pour nous en direct de Berlin. De quoi s'agit-il ?
Alors, je suis actuellement en pleine Assemblée Générale, General Assembly, de la WUJUS, la World Union of Jewish Students, l'équivalent de l'UEJF au niveau mondial. Et donc, c'est une organisation parapluie qui rassemble une cinquantaine d'organisations étudiantes juives à travers le monde, ainsi que des fédérations régionales. Par exemple, il y a les étudiants juifs d'Europe, il y a les étudiants juifs d'Amérique du Sud, etc. Et l'idée, c'est de se rassembler et d'élire le nouveau bureau de la World Union of Jewish Students qui aura la dure mission de nous représenter à l'international devant les organisations internationales et par exemple mener des actions communes pour essayer de lutter contre l'antisémitisme au niveau global.
Alors justement, vous êtes combien de délégations à peu près ?
Eh ben une quarantaine, ça fait un peu moins de 200 étudiants à travers le monde. Il y a des Tchèques, des Croates.
C'est génial.
C'est exceptionel. Il y a des pays où il reste une toute petite communauté juive qui survit et qui est bien organisée en Europe de l'Est, par exemple. Il y a aussi des pays, des énormes délégations venues d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Il y a évidemment une délégation d'étudiants israéliens qui représentent l'Union israélienne. Enfin, tout ce beau monde, c'est vraiment une manière aussi pour nous de comprendre que ces gens-là nous ressemblent, même si on vit aux quatre coins du globe. Il se trouve qu'on a les mêmes préoccupations, on lutte contre les mêmes personnes. Et je tiens à le préciser, elle était avec moi il y a quelques secondes, mais peut-être que je la retrouverai pour vous la présenter en direct.
Oui.
Mais Élise Hirsch, qui est dans mon bureau national et qui est donc la secrétaire nationale de l'UEJF, se présente pour être vice-présidente de la World Union of Jewish Students, la WJEF.
Et magnifique. Ce qui est intéressant
dans son programme, Élise, c'est que on a vu par exemple, vous savez, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé de la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po. Il se trouve que maintenant que les choses se sont décantées et qu'on arrive à observer vraiment précisément ce qui s'est passé pendant cette mobilisation, on comprend que certains étudiants qui étaient en échange depuis les États-Unis et notamment des étudiants de Columbia qui étaient inscrits pour un an à Sciences Po ont été les fers de lance de cette mobilisation pro-palestinienne qu'on a connue violente et antisémite à Sciences Po. En fait, ce qu'on comprend par cet exemple sur le terrain, c'est que la mobilisation pro-palestinienne, la manière dont l'argent circule pour nourrir cette mobilisation, la manière dont ces gens-là sont formés, etc., tout ça, c'est une manière internationale de fonctionner. Il y a derrière des associations internationales ou des pays comme l'Iran, etc. Et donc, la World Union of Jewish Students, la WJUS, doit et va, si Élise est élue, faire un travail qui permet de faire une réponse globale, une réponse internationale à l'antisémitisme. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans plein de pays, c'est à peu près la même chose. Et les étudiants du monde doivent, les étudiants juifs du monde doivent mettre en commun leur savoir, leur bien-être, leur manière de combattre pour pouvoir gagner.
Mais alors justement, quelle est la langue commune ?
C'est évidemment
c'est l'anglais.
À première vue, c'est l'anglais, mais il y a de plus en plus de poches de résistance, de discussions en hébreu un peu partout dans les quatre coins du bâtiment, et ça c'est beau aussi de voir que certaines personnes peuvent se comprendre, et évidemment sans parler anglais, grâce à l'hébreu que tout le monde apprend au Talmud Torah.
C'est sympa.
Que ce soit l'Allemagne, la Tchéquie. Voilà.
Donc c'est très sympa. Alors le principal thème que vous avez tous en commun, c'est Israël.
Évidemment, Israël est aussi l'identité juive, et c'est ça qui est intéressant. Notre principal sujet de discussion politique, en effet, c'est la question d'Israël. Parce que notre place vis-à-vis d'Israël est évidemment au cœur de des travaux de chaque union.
Mais
en temps normal, en temps de paix, il se trouve que dans ces organisations internationales, on compare nos manières d'être juifs, on réfléchit à ce que ça veut dire aussi d'être un juif de diaspora qui peut circuler à travers différents pays, qui peut s'intégrer très rapidement dans un nouveau pays grâce à l'union étudiante ou à la communauté juive sur place. On comprend aussi le lien de chacun avec des organisations comme les Lubavitch ou quelles sont les différences religieuses. Pour moi, ça a été une découverte énorme, ce milieu, parce que j'ai compris pour la première fois que finalement les juifs les plus nombreux du monde sont les juifs ashkénazes. Et moi, j'étais persuadé, comme je venais de France, que c'était les juifs séfarades.
Mais oui.
en fait, quand j'arrive dans un événement international comme celui-ci, les séfarades sont largement minorités.
enfin, minoritaire, je sais pas, mais en tous les cas, le nombre est toujours un peu moins important. Bon, bah, c'est quand même absolument passionnant. Vous revenez une minute sur ce qui s'est passé la semaine dernière?
Oui, bien sûr, je vous indiquais mardi dernier que nos universités d'hiver avaient commencé. J'étais dans un atelier des présidents qui s'est poursuivi tout au long de la semaine avec différentes étapes jusqu'à finir par le jeudi et le vendredi par un média training avec des professionnels de la radio et de la télé qui sont venus pour essayer de challenger les présidents de section, les former à la réponse médiatique. Et puis des dizaines d'autres, de nouveaux intervenants sont arrivés, notamment Stéphane Bou, qui est le rédacteur en chef de la revue.
De la revue K, bien sûr. Oui.
Évidemment, on a vu Jonathan Arfi, on a vu Dominique Sopo, le président du SOS Racisme, Élise Fagenès de la DICRA est restée avec nous. On a été rejoint aussi pour Shabbat par deux personnalités, religieuses, de pensée juive, à la fois la représentante de l'organisation sioniste mondiale, Yael David, qui nous a fait une série de doctorats sur Hanouka et sur la pluralité de la parole juive, mais également Yvan Segré, qui est un philosophe, un talmudiste, qui est venu pour nous parler de sa façon, de sa manière d'étudier et de l'importance du Talmud dans sa construction personnelle.
Ah oui, donc c'est juste passionnant, de grandes personnalités. Ça a été du très positif. Alors j'imagine que ce soir, vous allez tous faire la fête à Berlin. On vous souhaite une excellente année civile à toute l'équipe de l'UEJF, et française et européenne et mondiale. Et on vous embrasse très fort et on vous retrouve la semaine prochaine. Yosef Murciano, même heure, même studio. Ok? Allez, profitez bien, au revoir.
Radio J, 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen.
Du lundi au jeudi, on se retrouve avec mes invités prestigieux pour une heure d'émotion, de fond et en forme sur Radio J. À très vite. Radio J.
Allo. C'est mi volume de cojote. עשית פורטובלו על אננס אווירה של קצת אפס וטריפונס נראה לי נזוז יש משחק בחמש אין לה ראש לאכול את הקבסה אמיתית לא פרינססה בטסלה כולן פה בשחמט ואיתן לה שש בש את מיליון פותח במיליון חותם על זה עכשיו תביא ונוטריון באי שבת חתן אווירה של קצת אפס וטריפונס אווירה של קצת אפס וטריפונס אווירה של קצת אקונה מטאטה חלמבדה או סלסה או סמבה בדרך עלית לי אוקטבה כשאני משחק אל תגידי לי כמה למה את מיליון אווירה של קצת אפס וטריפונס אווירה של קצת אפס וטריפונס אווירה של קצת בא לי שבת חתן את כולך בלבן וכולם ירקדו יגידו זה רק בשבילנו תגידי כן ומה סגרתי לך קומה כל המלון שלך את לא יודעת מה הבנו
של קצת אפס וגריפונס.
Les invités de Lise Gutmann.
Mylène Greenstein, bonjour, merci d'être avec nous ce matin en direct d'Israël sur Radio J.
Bonjour Lise Gutmann.
Alors, vous
merci
êtes...
de me recevoir.
Avec un grand plaisir. Vous êtes avec nous pour un livre que je montre à l'antenne, La Réunion des exilés, c'est le titre de votre livre. Vous nous expliquerez à la fin de l'émission comment se le procurer. Alors c'est un livre très particulier qui a plusieurs entrées. D'abord, ce livre, on le savoure parce qu'on est en Israël, dans un Israël apaisé, si j'ose dire, dans lequel vous nous racontez des petits extraits de la vie de personnages, des personnages de la vie quotidienne, du courant qu'on croise à Tel Aviv, à Jérusalem, enfin partout, même quand par exemple, c'est juste un exemple, ils font leur lessive, leurs relations, et à travers vous, on sent toutes les particularités de la vie israélienne. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors, comment est née l'histoire de ce livre? Pourquoi le faire? Est-ce que c'est votre premier livre? En sachant que vous avez passé votre enfance à Cannes, que vous avez eu une vie familiale et professionnelle bien remplie à Paris, et que c'est à Tel Aviv que vous avez choisi de vous poser. Et vous avez des grandes connaissances sur la langue, la culture, l'histoire hébraïque, et on le sent à travers la façon dont vous évoquez le quotidien des Israéliens. Et là, vraiment, vous témoignez un attachement à la population et à la terre en parlant de la vie d'un immeuble et de ses habitants. Comment est née cette idée?
Eh bien, en m'installant à Tel Aviv, c'est la première fois que je suis venue vivre à Tel Aviv. J'ai fait une première alia il y a une cinquantaine d'années, et c'est ma deuxième alia. En m'installant à Tel Aviv, j'ai découvert un autre pays que celui que je connaissais déjà. Et j'ai trouvé que la population avait vraiment une particularité que la plupart des gens ne connaissent pas ici.
Alors, et attendez, racontant... je vous interromps. Comment ça, un autre pays? Qu'est-ce qui s'était passé?
Le pays d'aujourd'hui, j'ai connu le pays des années jusqu'à la guerre de Kippour, puis je suis partie et je suis revenue. Aujourd'hui, d'accord, c'est un autre pays. Il est complètement différent. C'est plus le pays des kibbutzim. C'est un pays libéral, moderne. Tel Aviv, c'est presque une ville comme les autres. Presque une ville comme les autres.
C'est la Startup Nation, c'est ça?
Oui, il y a la Startup Nation. Mais il y a ici, par exemple, dans un immeuble du sud de Tel Aviv, on rencontre des personnalités vraiment très, très intéressantes, très variées. Et j'ai vraiment voulu raconter cette histoire. Bien entendu, les personnages, je les ai inventés, c'est un mélange de fiction et de réalité, mais ils sont tout à fait représentatifs de la population du quartier, c'est le quartier de Florentine, et de Tel Aviv. Chacun a son histoire, tous viennent d'ailleurs, comme dans toute grande ville, les habitants d'un immeuble dans une grande ville, ils viennent d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « La Réunion des exilés ». Ils ne sont pas nés ici, ils n'ont pas leurs racines, leur famille, ils viennent d'ailleurs et ils peuvent évidemment faire l'expérience de la ville qui ne dort jamais, c'est comme ça qu'on surnomme Tel Aviv. Ils peuvent trouver du travail plus facilement, c'est un quartier où il y a beaucoup de jeunes parce que il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de restaurants, c'est vraiment une ville vibrante. Donc j'ai trouvé intéressant de raconter...
Vous avez commencé ce projet il y a combien d'années?
Il y a 2-3 ans, j'ai commencé à écrire il y a 2-3 ans ce livre. C'est pas le premier que j'écris, mais c'est le premier que je publie. En fait, c'est le premier projet au bout duquel je vais. J'ai déjà écrit, j'ai déjà un livre au fond d'un tiroir. L'écriture, c'est une deuxième nature chez moi. Mais celui-là, j'ai voulu le terminer. Et j'ai commencé à l'écrire il y a 2-3 ans. Ce livre s'est interrompu. L'histoire s'est interrompue brutalement. Je n'ai pas pu poursuivre l'histoire que je voulais raconter. Il y a eu le 7 octobre.
Voilà. Et alors on va en parler du 7 octobre, oui. Mais avant, est-ce que vous me permettez peut-être, pour qu'on entende votre écriture, que je lise quelques lignes.
D'accord.
Voilà.
Avec plaisir.
Par exemple, Amir l'électricien. Alors là, c'est un des personnages de l'immeuble. Et j'adore la façon dont vous commencez. Amir aime l'hiver. Il s'y sent bien, allez savoir pourquoi. Il se sent bien aussi dans l'immeuble dont il est l'un des premiers occupants et la mémoire des lieux. Il est arrivé il y a 10 ans et travaille pour Révrin Trinchemal, la compagnie d'électricité, appelé en urgence sur le terrain à toute heure. Il fait aussi des réparations ou travaux à la demande de particuliers pour arrondir ses fins de mois. L'électricité est l'élément qu'il maîtrise et qui lui ressemble. On pourrait dire qu'ils font bon ménage. Avec lui, il est adroit et intelligent. Entre guillemets, le courant passe bien. On a tout, on le voit. C'est assez incroyable. On ne le connaît pas, mais on le voit. Et c'est ainsi pour tous vos personnages. Il y a un des chapitres, alors là on est en plein dedans, Hanouka. Aujourd'hui, l'hiver s'éclaire. C'est le premier jour de Hanouka, la fête des Lumières. On y célèbre la victoire des Maccabées sur les Hellénistes du temps des Asmonéens et le miracle d'un chandelier dont les flammes ont brûlé 7 jours alors que la ville de Jérusalem assiégée n'avait ni huile ni vivre. C'est incroyable, j'ai rarement vu un tel résumé de l'histoire de Hanouka. Vous avez à cœur de transmettre à la fois la vie des personnages qui vous sont chers, mais aussi l'histoire juive.
Tout à fait. Je pense que en écrivant ce livre, j'ai aussi raconté la façon dont les Israéliens vivent leur judaïsme, parce que chacun ici, il y a vraiment une mosaïque de façon de vivre son judaïsme. Et à travers le livre, je raconte aussi la façon dont les fêtes juives sont célébrées, oui. Que ce soit à Tel Aviv, dans les villages, à la campagne. Et c'est vraiment différentes facettes du judaïsme. Quant à l'histoire juive, bon, je l'ai un peu étudiée, bien sûr, mais je crois que on peut encore progresser dans ce domaine. Et ça me fait assez plaisir que vous ayez choisi cet extrait.
Bien sûr. Est-ce que dans cet immeuble, il y avait ce qu'on pourrait appeler, peut-être qu'il y a encore, un vivre ensemble?
Écoutez, il y a beaucoup de choses qui existaient. Il y a toujours un vivre ensemble. Les gens se parlent, les gens se donnent des conseils, les gens se rendent service. Bon, évidemment, dans la période qu'on vit, on se rencontre beaucoup aussi dans le Mamad, oui. Dans la pièce sécurisée qui est collective. Donc, oui, il y a vraiment un vivre ensemble ici, et d'où que soient issus les habitants, il y a beaucoup d'échanges. C'est un grand immeuble moderne dans une grande ville, mais à la différence peut-être de ce qu'on connaît en France, il y a beaucoup de communication. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs un peu que j'arrive à écrire sur tous ces personnages que je ne connais pas. Pas tous intimement, mais j'ai réussi à leur donner vie. Ils sont presque pour moi aussi réels que mes propres amis. C'est que on avait un gardien dans cet immeuble qui était vraiment très bavard et qui tenait, oui, presque que le concierge. C'était pas un concierge, c'était vraiment un gardien.
Oui.
Mais il parlait beaucoup.
Il connaissait tout, apparemment, sur tout le monde.
Voilà, tout à fait. Alors, j'ai brodé beaucoup, bien sûr. J'ai aménagé des personnages qui sont fictifs, mais quelque part, ils existent aussi.
Ils sont inspirés de oui, votre vécu, c'est ça?
Tout à fait, oui. Oui, et ils sont représentatifs de vraiment de ce qu'on rencontre ici à Tel Aviv.
Alors, par exemple, Omar l'exilé, c'est très intéressant, parce que vous donnez des infos sur lui sans en donner, tout en donnant. D'accord?
Oui.
Il y a un mystère. Par exemple, qu'est-il venu faire à Tel Aviv, Omar? A-t-il des projets, de la famille, toutes ces choses banales auxquelles on répond sans y penser parfois? Lui préfère éviter de les évoquer. Du coup, il ne dit ni bonjour, ni bonsoir à personne. Là, il y a un mystère jusqu'au bout du petit chapitre. Hein.
On ne saura pas tout.
Alors après, il y a votre chapitre sur Pourim, parce que évidemment, alors Pourim, c'est carnaval, on le sait, et là, vous faites une très jolie description. Dès le matin, le quartier lentement s'ébroue, c'est la fin de l'hiver. C'est Pourim qui marque l'arrivée des beaux jours et le souvenir de la reine Esther. C'est une des périodes les plus colorées et un moment de joie pour toutes les générations. Pour les enfants et pour les jeunes, c'est un des moments forts de l'année. C'est-à-dire que, en fait, vous nous transmettez le quotidien des Israéliens.
Tout à fait. C'est le quotidien des Israéliens en ville, à Florentine, Tel Aviv, et surtout pour la fête de Pourim, parce qu'il y a vraiment énormément de fêtes organisées partout, que tout le monde participe, depuis les enfants jusqu'aux grands-parents. On peut trouver tout le monde déguisé, c'est très coloré.
C'est très chouette, c'est très coloré, très sympa. Alors, dans votre livre également, il y a des photos. Et des photos en noir et blanc, sauf la couverture où on voit la mère à Tel Aviv. Enfin, c'est une très très belle photo avec, très évocatrice. Maintenant, au niveau des photos à l'intérieur du livre, qui les a prises?
Ce sont toutes des photos que j'ai prises moi-même, parce que depuis que je suis en Israël, je travaille beaucoup moins, et je me consacre à la photographie, à l'écriture, et j'ai pris énormément de photos depuis que je suis arrivée, parce qu'en plus de mes activités citadines, je marche beaucoup, je fais des randonnées sur le Juif d'Israël, le Sentier National d'Israël, qui est un fameux sentier de randonnée, qui attire des marcheurs du monde entier. J'y ai rencontré beaucoup de gens du bout du monde, mais j'ai rencontré aussi beaucoup, beaucoup d'Israéliens. Donc le chemin de randonnée m'apporte deux choses. D'une part, j'ai découvert le pays par mes pieds. Jusque-là, je le connaissais plus par le cœur et par la voiture,
mais oui, voilà.
Ouais.
Vous avez découvert le pays, qui n'est pas immense, on le rappelle, entre parenthèses, et en randonnant dans des paysages magnifiques. Et vos photos sont majoritairement en noir et blanc et sont très évocatrices de ce qu'on voit en Israël, en fait.
Oui, mais il y a des paysages auxquels on n'accède pas si on ne fait pas de randonnée, parce que c'est vraiment au milieu du désert ou autre. Et donc, il y a des photos... Je pense que tout le monde n'a pas encore pu observer. Elles ne sont pas toutes en noir et blanc à l'origine. Je les ai transformées en noir et blanc pour les besoins de l'édition, mais j'ai beaucoup, beaucoup de photos plutôt en couleur.
Bien sûr.
C'est ma passion.
Mais c'est très beau en noir et blanc aussi. Alors, on a l'impression... que dans la réunion des exilés, le titre de votre livre, le dernier chapitre avant le 7 octobre, c'est la fête sur le toit, Soukhot, le dernier jour. Alors, ça se termine, ce chapitre se termine par la chanson de l'Eurovision de Netta Barzilai, I'm not a toy, on s'en souvient tous évidemment. La chanson, il y en a beaucoup à la fin du livre, mais ce que je me suis demandé, étant donné les choix des textes que vous nous proposez, est-ce que d'abord la chanson, quelle place ça tient dans votre vie, et ensuite est-ce qu'avant le 7 octobre vous aviez décidé de terminer le livre par des chants, et est-ce que c'était les mêmes chants?
Alors les chansons, en même temps que j'ai écrit le livre dans ma tête avant de coucher sur le papier,
oui,
il y a l'histoire et il y a les chansons. J'ai toujours les chansons dans la tête, en particulier en ce qui concerne Israël. Je suis très liée à Israël à travers son patrimoine musical. Et c'est aussi ce qui me lie aux Israéliens. Parce que depuis que je suis venue la première fois, je n'ai jamais quitté Mati Kaspi, Shlomo Gronir. Et je les écoute, je les entends
Arti,
encore.
Shlomo Arti et tous ceux qu'on aime, oui. Chava Alberstein.
Et quand je vais à leur concert, pour ceux qui sont encore là, je rencontre à nouveau toutes les générations. Et vraiment, c'est aussi pour moi le lien que j'ai avec Israël. Alors, est-ce que j'aurais mis les mêmes chansons avant le 7 octobre? La plupart des chansons sont liées justement au chapitre. Et la dernière chanson est liée au 7 octobre, une chanson qu'on a écoutée après 7 octobre, mais je ne veux pas vous la...
Non, la il faut lire.
Parce qu'on veut passer... Voilà,
Je me suis quand même posé une question. Quand j'étais jeune, j'ai grandi avec Marcel Hamon. Mes parents l'écoutaient. Oui. Et là, d'un coup, bing, je tombe sur une des chansons de mon enfance... Bleu, blanc, blond, le ciel de Provence, bleu, blanc, blond, les goélands. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, c'est à vous de nous le dire.
Bon, alors, je suis obligée de vous révéler que parmi tous les personnages du livre, il y en a une qui est inspirée un peu de ma mère, et ma mère adorait Marcel Hamon et cette chanson.
Écoutez, voilà. On l'entend.
Le soleil de plomb et dans tes yeux, mon rêve en bleu. J'ai besoin de vacances. Bleu, 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 je m'embarque dans tes yeux.
Toute une époque, hein. Merci à Serge à la réalisation technique. Donc, bleu, blanc, blond, le ciel de Provence, une chanson qu'on a tous adorée, oui, qu'on retrouve donc à la fin de votre livre. Alors évidemment, il y a Annie Veata, il y a les chansons de la guerre du, il y a la chanson de la guerre du Kippour. Et en effet, non seulement vous terminez sur cœur brisé, donc sur avec une traduction de Lishvurei Lev, la chanson de Hanan Ben Ari, mais également vous nous donnez les liens internet. Et puis à la fin du livre, il y a des photos absolument. C'est le carnet de photographie qui m'a beaucoup touchée également. Et là, on est en plein dans le quartier de Florentine, qui est votre quartier que vous adorez, je crois, parce que on sent l'amour que vous portez à la fois à la terre d'Israël, mais également à votre quartier à Tel Aviv. Alors, on va être obligé de terminer évidemment sur le 7 octobre, mais j'avais envie de parler de tout le positif également qui se dégage de votre ouvrage et qui nous replonge dans un Israël qui n'avait pas encore connu ce drame. J'ai raison ?
Oui, tout à fait. Le 7 octobre, c'est une faille qui nous a complètement, d'abord, rendu muets, littéralement. Je pense que pendant plusieurs semaines, personne n'arrivait à exprimer, à écrire, bien sûr, mais c'était vraiment un choc terrible et qui nous a changé profondément.
Alors écoutez, si vous permettez, on va terminer. Je vais lire juste un mini extrait de votre chapitre sur le 7 octobre qui est très édifiant. On est le 7 octobre et vous décrivez. Un calme morbide remplace la paix de cette journée promise au bonheur et à la vie. Je rappelle que on était en plein Soukhot. Le bleu du ciel se couvre d'un voile gris puis noir. Au fur et à mesure que les heures passent, le voile gris découvre un massacre qui est commis presque sous nos yeux. Les informations qui vont nous arriver par vagues recouvriront notre âme incrédule d'un sentiment d'horreur et de souffrance infinie. Le sang qui coule sans merci et la cruauté qui s'abat sur les nôtres par la main d'ennemis se comportant en bêtes féroces transforme notre génération épargnée jusque-là en témoin à son tour de la barbarie humaine et notre peuple libre et indépendant en victime de pogroms comme nos ancêtres avant nous en Russie, en Ukraine, en Pologne, cette fois-ci ici même dans ce foyer créé il y a 75 ans dans le but de protéger les juifs de l'antisémitisme et de la haine. On a tout compris. On a tout compris, Mylène Greenstein. Et vraiment, j'invite les auditrices et les auditeurs à lire La Réunion des exilés parce que tout ce que vous exprimez l'est avec beaucoup de délicatesse. Alors, pour d'abord, comment peut-on se procurer le livre ? Dites-le-nous.
Alors, en France, dans toutes les librairies de quartier, à la FNAC, si on veut la version brochée, bien sûr, et puis en livre digital, sur toutes les librairies en ligne, à la D'accord. FNAC, au Beau, John, Librinova, bien sûr, qui est l'éditeur. Et en Israël, il y a la librairie du foyer qui peut aussi le commenter.
Est-ce que vous allez le traduire en hébreu ?
Ah non, en hébreu, je ne pense pas. Peut-être en anglais.
Non, ou le faire traduire, peut-être. Parce que je pense que ça toucherait beaucoup les Israéliens. Bref, ça peut être un projet. Oui. En attendant la réunion des exilés, on va se quitter avec quelques notes de musique que vous nous avez envoyées. De quoi s'agit-il ?
C'est la chanson... Ma chère Misham Loroim Mikan, c'est vraiment un peu mon histoire, l'histoire de tout le monde. D'ailleurs, ce qu'on voit d'ici, on ne le voit pas de là-bas.
Voilà.
Il suffit de changer d'endroit, changer de quartier, changer de pays et on voit une autre réalité.
Mylène Greenstein, merci pour tout cela. Et quand vous le souhaitez sur Radio J et bonne année civile. Au revoir, merci.
Merci, bonne année. Merci beaucoup.
C'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Bonjour.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
ברוטשילד כבר לא אכפת לי אם תעבור שוב הולכת ברוטשילד כבר לא אכפת לי לחזור ולזכור שוב שומעת שירים שאהבת בלי להעביר תחנה וכשמישהו בדלת כבר לא מחזיר הפעימה טיפה טיפה אני טיפה טיפה אני אוספת את לגמרי שכחתי אותנו. השחקן לא הזכיר לי אותך, הסיפור לא מזכיר את שלנו. והמספר אצלך, אני כבר לא בטוחה.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Mon corps juste un peu plus fort.